Et le journal, Sébastien Legenie, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, une Amérique qui attend toujours son nouveau président, mais un scénario qui prend forme de plus en plus avec un Joe Biden qui se rapproche de la barre fatidique des 270 grands électeurs et un camp Trump qui joue la carte de la guérilla judiciaire. Illustration de ce duel à couteau tiré, nous serons auprès d'électeurs démocrates qui entendent bien que chaque vote soit compté et à Washington où la Maison-Blanche fait monter au créneau ses meilleurs avocats. Dans le reste de l'actualité, les associations de malades qui s'inquiètent de déprogrammation à cause du Covid dans les hôpitaux et des lagunes de la mer Méditerranée contaminées par les pesticides.
Deux invités au micro de Léa Salamé à 7h50. Aujourd'hui, l'ancien secrétaire général adjoint de l'ONU, Jean-Marie Guéhenneau, et l'éditorialiste de CNN, David Handelman.
France Inter.
Le suspense toujours aux États-Unis, Sébastien, mais avec une certitude, c'est une bataille judiciaire homérique qui s'annonce devant les tribunaux.
Joe Biden a beau être aux portes de la Maison-Blanche, il ne lui manque que quelques grands électeurs pour décrocher la victoire. Pas question toutefois pour Donald Trump de renoncer à cette heure. Le président américain, on le sait, a déposé des recours en cascade pour stopper le comptage des votes par correspondance. Comme en Pennsylvanie, état crucial avec 20 grands électeurs. L'équipe de campagne de Trump le déclare d'ailleurs vainqueur dans cet état alors que le comptage est toujours en cours. Une attitude qui fait bouillir en face les démocrates. À Philadelphie, par exemple, hier, une manifestation pro-Biden a eu lieu pour dénoncer ces démarches juridiques. Le reportage de Farida Noir.
Comptez chaque vote, un slogan scandé par les manifestants devant le City Hall de Philadelphie. Ils viennent d'apprendre que Donald Trump dépose un recours en justice en Pennsylvanie pour suspendre le dépouillement. Judith est révoltée. Trump ne peut pas voler cette élection. C'est extrêmement crucial que chaque vote soit compté. Tous les votes, avant que Trump se déclare vainqueur, même s'il l'a déjà fait sur Twitter alors qu'il n'a en fait pas gagné. Il faut compter chaque vote. C'est pour ça qu'on est là. Maintenant, il va falloir attendre pour voir ce qui va se passer. Mais Trump, lui, n'aime pas attendre. Avoir voté pour rien, c'est inconcevable pour Clara. J'ai voté il y a une semaine, beaucoup de gens que je connais aussi, donc on a besoin de savoir que nos bulletins sont pris en compte. Pour Marisa, Trump essaie par tous les moyens de stopper le processus électoral car il sent la défaite. Maintenant que les votes par correspondance sont en train d'être comptabilisés, Trump n'a plus cette longueur d'avance. On doit s'assurer que chaque vote est pris en compte et que l'issue finale soit choisie par le peuple américain. Les manifestants soutenus par le maire démocrate de la ville, Philadelphie ne s'arrêtera pas de compter. Nous continuerons 24 heures sur 24. Philadelphie, de la patience, nous allons y arriver, indique-t-il sur Twitter.
La Pennsylvanie qui n'a toujours pas fini de compter, donc un reportage de Farida Noir, elle est en théorie jusqu'à demain, mais à ce stade, c'est le camp républicain qui est devant sur 90% des bulletins dépouillés.
La Pennsylvanie, 7h33, qui n'est pas le seul état où Donald Trump a décidé de se battre.
Bonjour Benjamin Ely.
Bonjour.
Vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux à Washington. Le camp républicain s'est organisé depuis des jours avec une armada de juristes et la machine à recours, Benjamin, est désormais bien lancée.
Oui, depuis des mois, Donald Trump avait en fait préparé le terrain, préparé ses électeurs. Il leur disait, si je perds l'élection, c'est qu'elle est truquée. Et on y est, Donald Trump est en mauvaise position. Place donc à la concrétisation de cette stratégie avec ses proches qui montent au front. Eric Trump, le fils de Donald Trump, était en conférence de presse hier à Philadelphie. Ils essaient de tricher. Ils ont de grandes affiches dans les bureaux de vote, partout dans la ville, qui disent « Votez pour Biden et Harris ». C'est totalement illégal. Le superviseur des élections portait un masque Biden-Harris dans les bureaux de vote. Ce qui est totalement illégal. Et maintenant, il refuse de laisser l'un de nos observateurs regarder les opérations de comptage des bulletins. C'est une fraude. Vous l'entendez, le fils monte au créneau et au micro pendant que le père se terre dans la Maison Blanche, entouré de barrières, observant la remontada de son adversaire et se réfugiant sur Twitter pour faire sa part du travail, finalement, marteler que les démocrates, selon lui, volent l'élection avec parfois une pointe de résignation quand il parle des recours déjà déposés dans les états clés, Michigan, Géorgie, Pennsylvanie. Donald Trump évoque l'armée d'avocats qu'il a déployée, en effet, pour mener la contestation. Mais à quoi bon, avoue le président, le mal est fait.
Benjamin Elie en direct de New York. Ce scénario, un Trump qui refuse les résultats et se lance dans un combat devant les tribunaux, il était prévisible évidemment. Écoutez, à ce propos, la prophétie, pourrait-on dire, d'un certain Bernie Sanders, candidat malheureux aux primaires démocrates. Il avait déjà tout prévu il y a 2 semaines. Écoutez le sénateur du Maine, Bernie Sanders, donc dans un célèbre talk show du soir. On était le 23 octobre dernier.
It could well be that at 10 o'clock on election night,
il se peut qu'à 22h, le soir de l'élection, Trump est en train de gagner dans le Michigan, en Pennsylvanie, dans le Wisconsin. Et il arrive à la télévision et il dit « Merci les Américains de m'avoir réélu, c'est terminé, passez une bonne journée ». Mais le jour suivant et celui d'après, tous ces votes par correspondance sont comptés. Et on découvre qu'en fait c'est Biden qui a gagné ces États. Alors à ce moment-là, Trump dira à la télévision, vous voyez, je vous avais dit que tout ça était une fraude, je vous avais dit que ces votes par correspondance étaient truqués. Pas question de quitter la Maison Blanche. Voilà ce qui m'inquiète, moi et beaucoup d'autres.
Voilà la prophétie de Bernie Sanders et Jimmy Fallon. Il y a donc ces recours devant les tribunaux, mais il y a aussi les chiffres, les résultats électoraux. Joe Biden se rapproche, on le disait, des 270 grands électeurs minimum pour être proclamé vainqueur. À ce stade, selon l'Associated Press, qui est l'un des médias de référence pour les comptages, le candidat démocrate est à 264 grands électeurs, à 6 grands électeurs de la victoire, à la condition toutefois qu'il remporte l'Arizona, ce qui est encore incertain à cette heure. Ensuite, tout se joue dans 4 États, Nevada, Géorgie, Pennsylvanie, Caroline du Nord. Il suffirait d'une victoire dans un seul de ces États pour que Biden l'emporte. Le candidat démocrate qui est donc confiant, il a pris la parole hier soir avec ces mots. Je ne suis pas venu vous dire que nous avons gagné, mais nous pensons que nous allons gagner. Quel que soit le résultat, on peut déjà tirer quelques leçons de ce scrutin, avec notamment un camp Trump qui a montré un socle extrêmement solide. Ses électeurs lui sont restés fidèles, se sont beaucoup mobilisés, une tendance que les sondages n'avaient pas mesurée. Et parmi ses électeurs, des électrices rencontrées dans le nord-est de la Pennsylvanie, choisir Trump pour elles n'est pas un coup de tête, mais un choix pragmatique et d'abord économique, comme le dit cette jeune patronne de PME.
J'ai bénéficié de ces décisions en tant que président. Je suis patronne d'une petite entreprise et mes taxes ont baissé. Et j'aime le fait qu'ils disent ce qu'ils pensent vraiment. Ils ne se sentent pas obligés d'édulcorer sa pensée. Je crois qu'il est un peu fou, mais il vaut mieux être brutalement honnête qu'un menteur, j'imagine. Je ne suis pas d'accord avec toutes les idées des républicains, mais j'ai simplement choisi de voter pour mes intérêts.
What benefits me the most, so.
Et c'est l'économie qui a dicté votre vote.
Oui, absolument.
Et ça n'est pas la religion, l'avortement ou le droit de porter une arme?
Non, pas du tout.
Mais vous le soutenez sur ces sujets aussi?
Honnêtement, je soutiens le droit à l'avortement. Bien sûr, dans l'idéal, je serais pro-life, mais je pense que les femmes doivent avoir le choix.
Mais Trump a quand même nommé 3 juges conservateurs à la Cour suprême qui pourraient remettre en cause le droit à l'avortement.
Want to overturn Roe versus Wade?
I mean, that's scary. It's scary to think about. Oui, et ce serait effrayant, mais je pense que ça n'arrivera pas.
Voilà, une militante trumpiste avec Maxime Tellier, les partisans de Donald Trump qui ont manifesté hier notamment à Détroit dans le Michigan. Les élections, on y revient dans toutes nos éditions, à suivre aussi sur franceinter.fr.
Il est 7h38 en France, Sébastien, plus de 4000 malades en réanimation hier sur 6400 lits disponibles.
Voilà. Les hôpitaux ne sont pas encore saturés, mais la vague ne cesse de monter. Jusqu'ici, les autorités ont promis de limiter au maximum les déprogrammations d'autres opérations. Il n'empêche, les associations de patients montent au créneau et rappellent les erreurs du patient. Lors du premier confinement, des erreurs qu'il ne faudrait pas, Véronique Julia, cette fois reproduire.
Durant la première vague, les greffes rénales n'ont pas été considérées comme des urgences, au même titre que les greffes du cœur ou du poumon. Résultat, elles ont été interrompues dès le 16 mars dernier. Pendant le premier confinement, plus de 200 greffons n'ont pas pu être transplantés. Et la crainte de Magali Léo, de l'association de patients Rénalou, c'est que ça se reproduise dans les jours qui viennent.
On a aujourd'hui la confirmation que les greffes à partir de donneurs vivants sont reportées à Lyon, à Marseille et à Besançon. Ce qu'on craint, c'est vraiment l'effet domino, puisqu'on sait que tous les établissements sont touchés. Donc, c'est une activité qui est fragile. L'activité de greffe donneur vivant l'est d'autant plus qu'elle nécessite l'occupation de 2 blocs. un pour le receveur, un pour le donneur. Nous avons raison d'être inquiets puisqu'on a déjà eu l'expérience de la première vague.
Même inquiétude pour Céline Lisraoux. Elle représente l'association Rose Up, les patientes atteintes de cancer du sein. Par précaution, l'association a créé il y a quelques jours une plateforme pour recueillir d'éventuels témoignages de déprogrammation. Elle a déjà des retours.
On a eu en quelques jours une cinquantaine de déclarations. La grande majorité vient quand même de la région Rhône-Alpes. Des mammographies de suivi qui sont annulées et aussi un certain nombre de chirurgies annulées la veille pour le lendemain.
L'association Rose Up a saisi plusieurs agences régionales de santé sur la question. Si les témoignages se multiplient dans les jours qui viennent, elle compte s'adresser directement au ministre de la Santé, Olivier Véran.
Véronique Julia, ajoutons cette étude britannique publiée hier. Retarder le traitement d'un cancer, même d'un mois, entraîne un impact significatif sur le risque de mortalité. 6 à 13% de risque en plus. Une victoire pour les routiers, on en parlait hier ici même. Leurs syndicats ont obtenu l'ouverture dès ce samedi de 250 relais routiers de 18h à 10h du matin qui leur permettra de manger, de se reposer et de se laver.
Et on termine avec une nouvelle étude alarmante, Sébastien, sur la pollution aux pesticides sur les bords de la Méditerranée.
Étude de l'Ifremer qui met en évidence sur l'étang de Berre ou de Thau un effet cocktail des traces de pesticides en clair. Sandy Dauphin, peu de concentration mais beaucoup de molécules différentes.
Sur les 10 lagunes méditerranéennes analysées, 8 sont suffisamment contaminées par les pesticides pour que les scientifiques parlent d'un risque fort pour la santé de ces écosystèmes marins. Des étangs situés dans les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault et les Bouches-du-Rhône, entre 15 et 39 molécules différentes décelées. Dominique Munaron, chercheur en chimie de l'environnement à la station Ifremer de Sète.
Ces pesticides, ils ont plusieurs origines. Donc il y a bien sûr d'abord l'usage agricole. On retrouve des herbicides, des fongicides qui sont utilisés en viticulture notamment, sur les céréales également. Et aussi, il y a des usages tels que le nautisme, par exemple l'utilisation de ces produits sur les peintures des bateaux.
Il n'y a pas de dépassement de seuil pour les pesticides dits prioritaires, les plus dangereux. En revanche, 10 autres molécules ont été décelées à des doses supérieures à la norme, notamment le glyphosate. Mais c'est surtout le mélange de toutes ces substances qui inquiète.
On peut prendre l'image de l'alcool finalement. Quand on prend des mélanges d'alcool, en général, on a des effets qui sont plus rapides par rapport à si on avait usé d'un seul et même alcool. Toute proportion gardée, c'est effectivement ce qui se passe aussi avec les pesticides dans les lagunes. Seuls, ils ont peu d'effet parce qu'ils sont présents à faible teneur, mais finalement, tous ensemble, ils vont pouvoir impacter le phytoplancton ou la croissance des coquillages.
Les auteurs de l'étude recommandent de modifier les seuils autorisés des pesticides dans la mer pour mieux prendre en compte la dangerosité des effets cocktails.
Sandy Dauphin, ajoutons encore un mot en environnement. Les néonicotinoïdes sont de nouveau autorisés pour la betterave sucrière. C'était attendu, le Sénat a donné son aval hier.
Merci Sébastien Legénie. L'édito politique Thomas Legrand, à suivre.